Mois de juin, mois de la francophonie, mois de Toronto Pride, mois de la fierté gay 2016. Et cette année, tout le mois de juin, à l'antenne de CUT 89,5 FM. Une première pour la ville de Toronto, un mois de célébration non-stop. En cette année, pour la première fois, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, participera au grand défilé de la Pride, défilé de clôture du mois de la Pride Month, le 3 juillet prochain, à ne pas rater. Et tout au long du mois de juin, Popourri Show fait son cinéma à sa façon avec plusieurs partenaires de la région et vous propose une programmation spéciale aux couleurs LGBT sur le thème « Affiche tes couleurs ». Alors que la situation s'améliore souvent en Amérique, au Canada et en Europe, elle se détériore ailleurs, malheureusement. Et les animateurs, les correspondants de l'émission Popourri vous invitent à faire un tour du monde de la question homosexuelle en 22 pays gay-friendly et 80 pays homophobes. Découvrez les avancées, les enjeux, les défis politiques, économiques, artistiques des membres LGBT ainsi que toute la programmation des associations de la région. CUT-FM est engagé à mettre en avant les personnes ou les groupes qui chaque jour font bouger les personnes LGBT à Toronto, au Canada et dans le monde en défendant ses droits, en faisant de la prévention et en rendant nos communautés un peu plus sécuritaires. Rendez-vous chaque dimanche de 11h à 13h tout au long du mois de juin sur CUT 89,5 FM pour faire la fête avec les chefs de file, les militants de la communauté LGBT. Débat critique avec une grande liberté de ton. Participez à nos jeux concours et courez la chance de gagner un repas pour deux. Tenez-vous bien au prestigieux hôtel Four Seasons dans le quartier de Yorkville à Toronto. Si vous désirez contribuer ou parrainer cette édition spéciale, veuillez communiquer immédiatement avec l'équipe de Popourri Show, pot.pourri@sympatico.ca. Et cette 29e édition est produite en partenariat avec le département d'études françaises de l'Université de Toronto, Radio France Internationale et nos radios partenaires, l'Express de Toronto, Ciné Franco et plusieurs amis correspondants d'ici et ailleurs. Tout au long du mois de juin, soyez des nôtres. Mois de la fierté, mois de Toronto Pride sur CUT 89,5 FM Toronto.
Écoutez la planète chanter.
Cette chanson, les feuilles mortes, me rappellent à ton souvenir.
Écoutez la planète chanter.
Atomique Jingles. Le kit d'habillage pré-produit pour votre radio. Près de 80 effets sound design pour illustrer vos voix. Radio pour vos promos et speak antennes. 25 modules pré-produits pour des identifiants dynamiques. Plus de musique. Plus de... Insérez juste le nom de votre radio pour obtenir ceci. Plus de musique. Plus de hits. 102.5. Des bases rythmées.
Salut, c'est Bob Sinclair.
C'est Jennifer Lopez.
Et pour chaque mix, vous obtenez la version son radio ou son studio. La version bête seule, la version voix seule.
Plus de musique.
Non-stop. Salut, c'est Bob Sinclair.
C'est Jennifer Lopez.
Et les éléments qui composent le mix.
Mm-hmm.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo. Vous écoutez Potpourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
Avec le Centre africain d'études supérieures en gestion, le CESAG, ou l'émergence de talents au service de l'Afrique.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons éducation, comme chaque vendredi, éducation, formation. Et aujourd'hui, tout particulièrement, la galère des stages. Ils sont devenus indispensables, on le sait, dans de nombreux cursus d'études. Le problème, c'est comment trouver un stage, si possible un stage formateur et pas un stage photocopie. Je pense que vous voyez à quoi je fais allusion. Difficile de se montrer exigeant, en même temps quand de nombreuses entreprises considèrent les stagiaires au mieux comme une main-d'œuvre d'ajustement, justement, au pire comme des boulets inutiles et en tout cas rarement comme les talents de demain. Et vous, les voisins, si vous êtes étudiant ou patron, quelle est votre expérience? On attend bien sûr vos témoignages en direct et puis vos questions sur les recherches de stage. Appelez-nous, surtout n'attendez pas la fin de l'émission. Dès maintenant, 33 1 84 22 71 71 et bien sûr les messages sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. En studio pour dialoguer avec vous et vous donner des conseils aussi si c'est votre problème. Rachida Soucy, spécialiste emploi et stage pour le site internet Studirama Emploi. Bonjour Rachida.
Bonjour.
Virginie Salmen-Egel, Frilé, vous êtes fondatrice de l'association Viens voir mon taf, un réseau pour les jeunes sans réseau. C'est-à-dire traduisez sans piston, c'est ça?
Exactement.
Oui, et, ou sans bras longs, comme on dit dans certains pays. Amaury Montmoreau, président et fondateur d'Agistage, c'est le premier cabinet de recrutement pour les stagiaires.
Bonjour.
C'est bien cela?
Tout à fait.
Mais ce ne sont pas les stagiaires qui payent, ce sont les entreprises.
Exactement.
Qui font appel à vos services.
Services entièrement gratuits pour les étudiants.
On va en parler. Nous serons également en ligne à Abidjan avec Cynthia Chekete, qui est consultante senior au sein du cabinet de recrutement Afrique Search. Appelez-nous dès maintenant si vous connaissez la galère des stages. 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages qui nous sont parvenus sur le fil Facebook. Il y a le cri du cœur d'Oumar. Il est à N'Djamena au Tchad, mais il résume en fait le ressenti de très nombreux auditeurs. Le stage, nous dit Oumar, est devenu de plus en plus difficile à trouver. Tout est gangréné par la corruption, le népotisme. Et voir des places de stagiaires occupées par des incompétents, eh ben c'est vraiment compliqué pour ceux qui sont pleins de bonne volonté. Isabelle, à Bamako, même pour trouver un stage non rémunéré, c'est un casse-tête au Mali. Et quand tu trouves, tu n'as jamais de mission intéressante. Alors comment acquérir de l'expérience si personne ne veut nous donner de stage? Ou encore Abdoulaye, qui est à Douala, au Cameroun. L'année dernière, afin de valider ma licence professionnelle, il fallait que j'effectue un certain nombre de stages. J'ai fait beaucoup de demandes dans de nombreuses sociétés, on ne m'a jamais rappelé. Un ami a poussé mon dossier dans la société de son père. Et évidemment, j'ai été pris. Forcément, comme ça ne faisait pas partie de mes choix, c'était difficile de m'intégrer. Mais j'ai eu un chef génial qui appréciait mon travail, me motivait tous les jours à mieux faire. Et il m'a même aidé à trouver du travail à la fin de mon stage. stage. Ce stage sera toujours une expérience inoubliable. Voilà, il y a aussi quand même des formidables histoires hein, dans les stages. Appelez-nous en tout cas pour questionner, solliciter des conseils. 33 1 84 22 71 71.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins, hein ?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Le réseau, le piston, le bras long, tous évoquent tout de même cette problématique, d'ailleurs souvent, quels que soient les pays. Rachida Soucy, aujourd'hui, comment globalement les jeunes trouvent un stage en France ?
Alors, il y a plusieurs façons de trouver un stage. On peut dire que l'école, le réseau d'écoles est très important aujourd'hui, notamment pour les grandes écoles. C'est vrai que les étudiants peuvent faire appel au réseau des anciens, par exemple, pour pouvoir justement leur demander des conseils et savoir si éventuellement il y a des possibilités dans leurs entreprises de faire un stage également. Et il y a la façon, on va dire un peu moins directe, mais d'aller rencontrer les entreprises en fait lors de forums d'entreprises ou de salons de recrutement. Et du coup, c'est l'occasion de proposer sa candidature, de montrer que justement
oui,
on a
de
envie.
De se rencontrer physiquement,
voilà,
c'est déjà
exactement,
plus simple.
Exactement.
C'est-à-dire qu'envoyer une lettre de candidature pour un stage comme ça dans le vide, par courrier électronique, c'est pas gagné d'avance.
Alors ça dépend, parce que si l'entreprise justement a posté une offre, c'est qu'elle a un besoin. Donc du coup, si l'étudiant répond à cette offre et répond aux critères, il a de fortes chances d'être appelé pour un entretien. Donc ça marche aussi encore, heureusement.
Virginie Salmen, Gaëlle Frilé. Virginie Salmen, vous êtes journaliste éducation à Europe 1. Hein, et Gaëlle Frilé, vous êtes professeure d'anglais. Vous avez fondé cette association Viens voir mon taf. Vous, qu'est-ce que vous constatez globalement là, sur le marché des stages en général en France, Virginie Salmen ?
Alors nous, on s'intéresse justement aux élèves de 3e. Il y a un stage obligatoire ici en France de 5 jours pendant l'année de 3e. Donc les élèves qui ont 14-15 ans. Et on se rend compte que les élèves qui sont dans des zones un peu plus sensibles, des quartiers populaires, ont du mal à trouver. Enfin, il y a une expression ici qui s'appelle le stage kebab. Vous savez, en gros, c'est on trouve un stage au kebab du quartier. Ou alors, généralement, les élèves font le trajet entre chez eux et le collège. Et sur le trajet, il y a peut-être un coiffeur, une pharmacie. Et puis, quand les plus rapides ont pris ces stages, eh ben, il n'y a plus de stage pour les autres. Mmh. Alors, nous, justement, on voulait remédier à ça et se dire d'abord, notre idée de départ, c'est qu'on s'est dit, on va ouvrir notre propre réseau carnet d'adresses aux élèves pour qu'avec les gens qu'on connaît, nous, ils puissent trouver des stages parce qu'ils ont plein d'envie, évidemment. Ils sont brillants, ils ont beaucoup de rêves. Et on s'est dit déjà, avec tous les gens que nous on connaît et qui ont envie de faire quelque chose, ouvrir leurs portes 5 jours par an, c'est tout à fait faisable. Voilà ce qu'on a fait.
Gaëlle Frilé.
Oui, le problème, moi, enseignante, j'avais des élèves de 3e et au mois de décembre, ils partaient en stage, revenaient après les vacances avec des mines dépitées, déçues. Ils avaient tous perdu leur temps, c'était nul, on fait rien, ils s'intéressent pas à nous. Et donc ce constat-là, j'en avais vraiment assez et je me suis dit que ces élèves avaient autant, voire plus parfois de capacité, de motivation pour faire des stages, mais qu'ils n'en avaient pas la possibilité par manque de piston. Et donc on va les aider, on va essayer de trouver des stages pour ces élèves-là.
Mais ça veut dire que quand même le problème du réseau et du piston, alors réseau et piston, c'est pas la même chose non plus, hein, mais il est quand même répandu, que ce soit pour ces jeunes qui cherchent un stage en troisième, le fameux petit stage obligatoire, certes qui n'est pas déterminant pour trouver un emploi, mais c'est important aussi dans le parcours d'un jeune parce que ça va être sa première expérience dans le monde du travail, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est très important et c'est un moment charnière. La classe de 3e, c'est juste avant l'orientation, le lycée, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je m'oriente vers des études plutôt longues ou déjà professionnelles ? Et concernant ce stage, il y a la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, qui avait dit ça au mois de décembre dernier en disant « Mais vous vous rendez compte, il y a des élèves de 3e qui se rendent compte que lorsqu'ils cherchent un stage gratuitement, ils ont du mal, ils galèrent à trouver un stage alors que c'est non rémunéré. Et ces élèves-là, quand ils sont refusés comme ça, quelle va être leur attitude quand, lorsque plus tard ils chercheront un emploi ?
Mais surtout, ils se disent qu'est-ce qui m'attend plus tard ?
Mais personne
ne me paiera jamais. Oui, c'est ça.
Alors, Amaury Montmoreau, pourquoi vous avez créé un cabinet de recrutement pour stagiaires ? Là, on parle bien de stagiaires qui sont en train de faire des études, hein, en général post-bac, non ?
Alors nous, on touche d'abord une population qui est de bac plus 2 à bac plus 5.
Oui.
Donc des personnes dans des études et on est sur des stages plus longs, c'est-à-dire de 3 à 6 mois.
Oui. Ou alors, sinon, qui peuvent connaître les mêmes galères que ce qu'on vient de raconter.
Tout à fait.
Là, hein.
Alors quand j'entends le stage kebab, en fait c'est un peu un peu la même chose, donc de manière plus élargie. Mais l'idée est là, c'est que généralement...
Stage photocopie, c'est ça ?
Alors, c'est pas tant stage photocopie, c'est plus la problématique qu'on identifie les entreprises qu'on consomme, les entreprises qui sont de nos parents ou des amis de nos parents, et on va pas forcément aller chercher plus loin. Et en fait, sur cette notion de réseau, ce qui est intéressant, c'est que faut se dire aussi que les entreprises, elles ont pas forcément le réseau, elles, de leur côté. Du coup, il y a aussi des entreprises qui recherchent. Et le vrai challenge, en fait, c'est de réussir à trouver ces entreprises-là, qui, elles, pour le coup, n'ont pas forcément des accès dans les établissements scolaires, n'ont pas forcément des accès...
Vous êtes en train de nous dire qu'il y a des entreprises qui cherchent des stagiaires, alors qu'il y a tellement de stagiaires qui ne trouvent pas de stage ?
Tout à fait. Il y a des entreprises qui cherchent des stagiaires, des entreprises qui ont arrêté de prendre des stagiaires, parce que, justement, pour elles, c'était une galère de trouver un stagiaire. Il y a bien des entreprises qui, nous rémunèrent pour trouver des stagiaires. Donc, c'est qu'à un moment donné, en fait...
Et là,
il
vous parlez de secteurs en tension, non ? Le bâtiment, les métiers de bouche, l'hôtellerie, la restauration
Alors, nous, on touche... Alors, il y a des métiers en tension, tout à fait. Ensuite, il y a également plein de métiers qui sont des métiers du quotidien. Alors après, on est bien évidemment sur une population de personnes qui sont diplômées. Quand je dis diplômées, qui sont au cours d'un diplôme.
Mais quel genre de secteur où on a des entreprises qui cherchent des stagiaires et qui n'en trouvent pas ?
Le commercial, l'informatique, le marketing, la communication, le droit, tous ces secteurs-là, finalement, où il y a des entreprises. Si on regarde bien, si on fait la liste dans l'ensemble des entreprises pour lesquelles on peut être amené à postuler, je ne suis pas sûr que ça dépasse 100 entreprises. Pourtant, il y a des millions d'entreprises aujourd'hui. Donc, il y a des opportunités dans chacune de ces entreprises-là.
Rachida Soucy ?
Exactement, parce qu'en fait, on remarque souvent que les candidats postulent au sein des grands groupes et pas assez dans les petites entreprises, les start-up, alors qu'elles offrent beaucoup d'opportunités. Nous, sur Studiarama Emploi, c'est vrai qu'on remarque qu'il y a pas mal d'offres assez variées. Il y a en moyenne, on va dire, 2000 offres par mois. Donc, ça veut dire qu'il y a des stages à pourvoir.
Vous constatez aussi tout de même, Virginie Salmen et Gaëlle Frillet, qu'il y a aussi un problème de méthode de recherche de stage. Alors évidemment, pour des petits collégiens de troisième, on peut difficilement leur en vouloir de ne pas avoir ces méthodes-là. Mais ce n'est pas seulement un problème de milieu social, puisque beaucoup, de très nombreux jeunes galèrent.
Mais c'est un peu la même chose pour eux, en fait. On se disait, ils connaissent, par exemple, le boulanger, le mécanicien, les commerces ou les métiers qu'ils ont pu voir dans leur vie quotidienne. Mais finalement, il y a plein de trucs qui les intéresseraient et qui ne connaissent pas, tout simplement.
Je pense qu'en fait, la première étape, et quel que soit le niveau, c'est de savoir ce qu'on recherche. On ne peut pas trouver quelque chose si on ne sait pas ce qu'on recherche, finalement. Et je pense que c'est la plus grosse problématique, et que ce soit en troisième ou alors pour des stages de fin d'études de Bac+5, c'est qu'on on se retrouve avec beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'ils recherchent, et ils prennent un stage pour finalement valider un diplôme, ou parce qu'il faut le faire, et pas parce qu'ils ont vraiment envie ou qu'ils construisent un plan derrière.
Alors il y a tout de même une vraie méthode pour rechercher des stages, et puis surtout pour s'assurer d'avoir un stage de qualité, parce que c'est pas le tout de trouver un stage. Quand effectivement vous nous rapportez les témoignages de ces jeunes qui reviennent dépités au bout de quelques jours, appelez-nous en tout cas pour nous parler de vos difficultés. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Je vous lis le message d'Ariel, 21 ans, qui écrit de Tourcoing, donc en France, qui est apprentie journaliste. Elle nous dit « Je n'ai trouvé qu'un seul stage en France de journaliste parce que c'est dans d'autres pays qu'il y a plus d'opportunités, comme au Canada ou en Angleterre. Lorsqu'on n'a pas de piston, et elle aussi, elle parle de ça, il faut commencer dans des petites structures et à l'étranger. Il se focalise sur la motivation, la volonté et l'expérience plutôt que sur les diplômes et les relations. » Qu'est-ce que vous en pensez, Rachida Soucy ?
Alors, ça m'étonne qu'elle trouve qu'une seule offre de stage dans le monde du journalisme, parce que quand même, il y a pas mal de stages proposés à l'année.
C'est vrai qu'on répond à des candidatures spontanées. Voilà. Si je le précise, donc des gens qui n'ont absolument aucun réseau, aucun piston, qui ont simplement envoyé leur CV.
Voilà, et il faut pas en fait se fixer, comme je disais tout à l'heure, en fait, sur certaines... par exemple, grande rédaction, il faut aussi aller voir du côté des sites web. Il y en a plein, donc c'est l'opportunité aussi de faire ses premiers pas.
Mais sur la différence de culture avec les pays anglo-saxons ? Non ?
pas de parce qu'on a eu on a pas mal de témoignages quand même de ce type, non, Virginie Salmen
La culture du réseau, par exemple, on en parlait. C'est quelque chose qui est beaucoup plus valorisé dans les pays anglo-saxons et c'est pas une honte du tout. Les gens, très rapidement, enfin très tôt, les élèves, les étudiants ont cette notion-là. Et nous, d'ailleurs, à Viens voir mon taf, quand on a des élèves de 14-15 ans, ils font leur stage. Alors, ils passent 5 jours avec un professionnel, une première rencontre avec un adulte en plus, c'est un peu impressionnant, mais on leur dit à la fin du stage... Vous avez rencontré quelqu'un, vous prenez le numéro de téléphone, vous entretenez le lien, c'est le début de votre propre réseau. C'est pas aberrant de construire son réseau dès 14-15 ans. Et ça sera utile pour plus tard. Je le recontacterai pour un avis sur un CV, pour un avis sur une orientation ou des choses comme ça. Et ça commence tôt, mais il faut l'avoir en tête.
Oui, d'ailleurs, on donne aussi des conseils aux stagiaires. On leur dit, par exemple, la bonne année, on peut le souhaiter à la personne qui nous a accueillis en stage. C'est des politesses, mais ça maintient le lien. C'est des choses vraiment qui aident plus tard. Parce que 5 ans plus tard, vous pourrez lui dire, est-ce que vous pourriez m'aider pour relire un CV ou quelque chose comme ça? Et du coup, il y a un stagiaire cette année avec une accueillante qui a fêté la Saint-Valentin, qui lui a dit, bonne Saint-Valentin, madame. Alors elle a dit, écoute, la Saint-Valentin, c'est vraiment la fête des amoureux, mais l'intention est parfaite. C'est exactement ça qu'il faut faire.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons Fataou qui nous appelle du Bénin, de Parakou. Bonjour Fataou.
Oui, bonjour Emmanuel.
Fataou, je crois que vous avez dit au standard que vous avez vous-même, alors là vous êtes diplômé, hein, vous avez eu une maîtrise à l'université de Parakou de gestion des entreprises, mais vous avez été pénalisé pendant vos études du fait que vous ne trouviez pas de stage.
Oui, effectivement. Et actuellement, d'abord, je suis un gestionnaire de production et de stocks dans une structure à Parakou.
Oui.
Maintenant, comme je l'ai dit, alors que j'étais un étudiant en fin de formation en sciences économiques et de gestion de la dite université,
oui.
Et comme vous le savez, à la fin d'une formation en gestion, il faut écrire un mémoire.
Oui.
Et ça, la suite sera, on dirait, soutenue. Maintenant, et mon thème portait sur c'est du recours au cabinet de recrutement sur la performance des entreprises béninoises. Alors, il me fallait trouver une ou deux entreprises afin que je puisse mener une étude, une analyse comparative.
C'est ça, vous aviez besoin d'un stage pour écrire votre mémoire de fin d'études, hein, c'est ça, qui porterait sur les méthodes de recrutement des entreprises.
Non, j'avais plutôt besoin. Maintenant, j'ai fini avec cela, c'est dans le temps.
Oui, mais donc vous n'avez pas trouvé de stage du tout?
Oui, en son temps, je n'avais pas du tout trouvé, malgré ma bonne volonté, toutes les recherches que j'ai entreprises pour en trouver ne serait-ce que stage, même bénévole.
Oui.
Oui, et j'avais ciblé une ou deux entreprises, mais la première entreprise m'a posé une grande liste de conditions à remplir avant d'être embauché en tant que stagiaire dans son entreprise.
Oui. Donc vous aviez le sentiment que les entreprises, en fait, en vous posant énormément de conditions, cherchaient à vous décourager, c'est ça?
Effectivement. J'ai eu l'impression par la suite que c'était une façon indirecte pour les entreprises de me dire non.
Mais alors ceci dit, donc, vous n'avez pas pu faire votre stage, vous avez dû donc changer de sujet de mémoire de fin d'études et pour cause puisque vous n'étiez pas en entreprise, donc vous ne pouviez pas observer les méthodes de recrutement de l'entreprise en faisant votre stage. Mais ceci dit, vous avez quand même fini par trouver un emploi, Fataou.
Oui, mais vous savez, ils m'ont découragé au point où même j'ai été obligé de changer le thème de mon mémoire.
Oui.
Au lieu que ça soit beaucoup plus accentué sur le cas spécifique d'une ou des entreprises, j'ai été obligé de changer le thème de ma mémoire qui finalement est dans une
Vous êtes nombreux dans ce cas, Fataou, à ne pas trouver de stage de fin d'études?
Bon, au Bénin, vous savez, il y a des milliers de jeunes dans mon cas et même plus petits.
Oui, des milliers. Merci de nous avoir appelé, Fataou. En tout cas, vous pouvez continuer de nous appeler, surtout si vous connaissez en ce moment même des difficultés pour trouver une entreprise qui vous accepte, que ce soit pour un stage rémunéré, non rémunéré. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On dit beaucoup que tout de même que la recherche de stage, bien sûr, il y a une méthode. Il y a aussi un savoir-être que les entreprises évaluent également et pas seulement un CV qui arrive
arrive, un peu comme quand on recherche un emploi, non?
Oui, tout à fait. La recherche de stage s'apparente à la recherche d'un premier emploi. Donc il faut adopter, on va dire, la même attitude. Donc que ce soit au niveau de la candidature, il faut la soigner. Donc la lettre de motivation et le CV doit être parfait, entre guillemets, essayer de répondre à l'annonce, donc essayer de coller à l'offre de l'entreprise. Et puis, au niveau de l'entretien, c'est essayer justement d'adopter les codes de l'entreprise, donc se renseigner sur l'entreprise pour pouvoir en parler et justement montrer aussi qu'on a un savoir-être et pas que des compétences.
Amaury Montmoreau, les jeunes, enfin, connaissent-ils ces codes-là pour la recherche d'un stage ?
Honnêtement, pas toujours, voire même assez rarement. Au niveau de la méthode en elle-même, on a dit d'abord la première chose, c'est savoir ce qu'on va chercher. Ensuite, c'est de se dire comment on va trouver ce stage et est-ce qu'il est en adéquation par rapport à la réalité du marché. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire le briseur de rêve, mais tout le monde ne peut pas tout faire.
Ouais. Alors donc, justement, on va en parler. Hein. Bien sûr, vous pouvez nous appeler pour poser toutes vos questions. On se retrouve juste après le flash, c'est-à-dire dans un tout petit peu plus de 3 minutes.
Carrefour.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins, éducation, formation, comme chaque vendredi. Aujourd'hui, on parle de la galère des stages. Comment trouver un stage, et si possible un bon stage, un stage formateur. Quelle méthode de recherche, quel devoir aussi pour les entreprises. La situation est largement réglementée dans un pays comme la France, on en parlera. Est-ce que finalement ça profite aux stagiaires ou pas? On discute avec vous, Rachida Soussi, vous êtes spécialiste emploi et stage chez Studirama Emploi. Virginie Salmen-Gaël Frilé, vous appartenez à l'association que vous avez créée. Viens voir mon taf, et ça s'adresse vraiment à des collégiens, mais c'est aussi là que tout commence, notamment dans les quartiers en difficulté où les collégiens n'ont aucune possibilité de connaître une entreprise qui les accepterait pour le fameux stage obligatoire en fin de troisième. C'est que 5 jours, mais la recherche et la galère pour trouver ces 5 jours est largement disproportionnée par rapport à la durée du stage. On va en reparler avec vous. Amaury Montmoreau, vous avez fondé il y a 6 ans Agistage, qui est un cabinet de recrutement pour stagiaires, mais qui est financé par les entreprises. Nous sommes également en ligne à Abidjan avec Cynthia Chiquete, consultante senior au sein du cabinet de recrutement Afrique Search. Bonjour Cynthia Chiquete.
Bonjour Emmanuel.
Alors votre cabinet de recrutement Afrique Search, bien sûr, est spécialisé dans le recrutement de cadres confirmés et pas du tout dans le monde des stagiaires. Néanmoins, vous êtes en contact permanent avec les entreprises. Vous voyez bien les stagiaires qui passent dans les entreprises. Est-ce que le marché de l'emploi qui redémarre en Côte d'Ivoire à la faveur de la croissance économique, est-ce que ça profite aux étudiants stagiaires ou pas vraiment?
Pas vraiment, je dirais vraiment pas vraiment. Le constat, écoutez, il est le même. Que ce soit en France ou en Afrique, je dirais même avec un niveau de difficulté plus accru sur l'Afrique. Il y a tout simplement aucun accompagnement des universités ou des écoles. Et on encourage les étudiants à se débrouiller par eux-mêmes, ce qui fait que la famille, le réseau, le piston devient pour eux la seule alternative possible. Et je dirais peut-être même de développer la débrouillardise et une sorte de motivation. J'entendais précédemment parler des startups. Ouais. Ça peut être une nouvelle opportunité justement pour les stagiaires de passer par les réseaux sociaux pour se faire voir, pour se vendre. Parce que l'entreprise aujourd'hui en Afrique, malheureusement, déjà pour trouver un emploi, c'est une vraie galère. Donc le stage, ça devient encore plus compliqué. On a des stagiaires qui ont un BTS. La partie théorique est terminée et ils sont en recherche de stage depuis 2 ans.
Ah oui, donc ils ne peuvent pas valider leur BTS en fait.
Ils ne peuvent pas valider leur BTS. Donc soit ce qu'on va retrouver en face de nous, ce sont des stagiaires, des personnes, des étudiants qui recherchent un stage, mais qui n'ont même pas la possibilité de trouver le premier stage.
Ouais.
Et après, ça va devenir, lorsqu'ils en trouvent un, on rentre dans l'accumulation de stages pour trouver un poste.
Ouais.
un emploi.
Mais alors, voilà. Bon, on le sait, nos auditeurs, on est bien placés pour le savoir, sont extrêmement agiles sur les réseaux sociaux, les jeunes. Mais est-ce qu'ils ont le réflexe d'aller sur les réseaux sociaux pour trouver un stage? Parce que beaucoup nous disent, ah mais j'ai pas le bras long, j'ai pas l'oncle, la tante qu'il faut, la famille qu'il faut pour me trouver un stage. Donc je suis dans la galère. Ont-ils l'idée de chercher autrement aujourd'hui, selon vous, Cynthia Chiquetté?
Justement, c'est pour ça que je fais référence aux réseaux sociaux, qui devient, parce que les startups sont la plupart du temps créées par des jeunes, et en passant par les réseaux sociaux, les chances sont un peu plus fortes que de passer par le canal traditionnel, parce que ça marche beaucoup par piston, et malheureusement, on en a qui n'en ont pas, qui sont moins chanceux, qui n'ont pas la chance d'avoir ce réseau influent de personnes qui vont les aider. Donc, ce qu'ils font, des cas pratiques, c'est d'envoyer leur CV sur des postes où ils n'ont même pas le niveau. On va mettre un poste de responsable commercial et on va recevoir des niveaux de stagiaires juste parce qu'ils cherchent un stage. Ils cherchent à se voir, à
oui,
se faire
oui,
connaître.
Oui, c'est ce que vous disiez, Amaury Montmoreau. Hein. Oui. Restez voilà. En ligne avec nous, Cynthia, parce que Amaury Montmoreau, vous disiez ça justement juste avant le flash. Hein. Avoir quand même une idée assez réelle de ce que l'on peut faire, de ce à quoi on peut prétendre ou pas. Quand on prétend à un stage, évidemment, c'est qu'on est en cours de formation ou même en fin de formation, inexpérimenté et pas encore très compétent techniquement.
Tout à fait. Il faut avoir une notion, une réalité du marché et il faut être fier de ses qualités, mais aussi conscient de la manière dont qu'on a un stade où on doit progresser et qu'on a un stade où on doit encore faire ses preuves. Et donc c'est un peu parfois la difficulté que nous on rencontre ici, c'est des personnes qui, parce qu'ils veulent se vendre, voilà, parce qu'ils veulent se mettre en avant, finalement ils vont aller prétendre à certaines choses qui...
À quoi vous pensez, par exemple?
Là, l'exemple qui était donné par rapport à des responsables commerciaux, des personnes qui n'ont pas forcément encore de notions dans certains domaines et qui disent « je veux apprendre ». Donc c'est très bien d'avoir des personnes qui veulent apprendre, mais s'il n'y a pas une certaine base théorique, forcément, c'est des personnes qui ont la base théorique qui vont être privilégiées.
Écoutez la planète chanter.
Cette chanson, les feuilles mortes me rappellent à ton souvenir.
Écoutez la planète chanter.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins, des bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.reflet-salvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
Remember, I'll be the one you won't forget. It's going down. champagne cup jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Wow, is this about to go down? Swing your body round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. Swing your body.
avec Frédéric Couteau. Bonjour Frédéric.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Et avec, à la une, l'Afrique homophobe.
Le terrible attentat d'Orlando aux États-Unis a été unanimement condamné sur le continent africain, mais un certain embarras a été constaté, embarras concernant la cible de cette attaque, à savoir la communauté homosexuelle. Il faut savoir en effet que les homosexuels en Afrique sont largement considérés au mieux comme des déviants, et au pire, pour chasser. C'est ce que nous explique l'observateur Palga à Ouaga. Vue d'Afrique, écrit le journal, ce sont des condamnations mêlées de gêne qui semblent se dégager. Naturellement, on ne peut que condamner cette furie meurtrière, surtout dans les pays qui ont déjà connu pareille épreuve du feu, tel le Burkina Faso, dont le président a dénoncé la chose sur Twitter. Version similaire du côté d'Ali Bongo, du Gabon, de Dlamini Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine, et de Jacob Zuma, le président sud-africain. Cependant, il faut le reconnaître, pointe donc le quotidien ouagalais, l'opinion africaine dans son ensemble et au-delà des palais présidentiels est partagée entre légitime indignation et non-dit au regard de la cible, en l'occurrence les LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels, en français facile les homosexuels, le comble de la luxure dans de nombreux pays africains. Pour certains, poursuit l'observateur Palga, ces groupes entretiennent des relations contre nature et pour d'autres, ce sont des fous qu'il faut envoyer à l'asile, à l'exception d'îlots comme l'Afrique du Sud où l'on célèbre même la Gay Pride régulièrement. Dans la plupart des pays du continent, les PD, comme certains les désignent méchamment, sont au mieux stigmatisés, ostracisés et dans le pire des cas, poursuivis en justice, puisque sur certains cieux, l'homosexualité est un délit. Mais quoi qu'il en soit, reconnaît l'observateur Palga, ce sont des êtres humains, après tout, même déviants, et on ne voit pas pourquoi on mériterait d'être envoyé ad patres en raison de ses orientations sexuelles, pas plus qu'on ne devrait subir la potence pour son appartenance religieuse ou ses opinions politiques. Et le quotidien ouagalais de conclure, il faut laisser Allah, juge ultime, choisir quoi faire de ces êtres humains.
Frédéric, le constat est à peu près similaire pour aujourd'hui, toujours au Burkina.
Oui, l'homosexualité mitige la compassion des présidents africains, titre le journal. Le soutien timoré des présidents africains est à rechercher dans ce sujet qui se dresse en toile de fond de cette tuerie et qui, comme le soleil, ne peut être caché par une avalanche de déclarations de soutien, à savoir l'homosexualité, l'omerta, le rejet, voire l'aversion collective qui entoure les homos, bisexuels, lesbiennes et autres transsexuels en Afrique n'ont pas poussé beaucoup d'Africains à manifester clairement leur aversion à l'acte inqualifiable d'Omar Matine, reconnaît le journal. L'homosexualité est un phénomène qui existe en Afrique, pointe aujourd'hui. À Ouaga, Abidjan, Dakar, cette catégorie de personnes fréquente de plus en plus certains lieux publics, certes discrètement, mais qu'on ne s'y trompe pas, on fait semblant de ne pas savoir, hypocrisie collective, quand tu nous tiens. Ce sujet est donc encore tabou en Afrique. L'on se rappelle de cette déclaration un peu alambiquée de Macky Sall qui disait à Barack Obama, alors en visite au Sénégal, que les Sénégalais n'étaient pas prêts à accueillir l'homosexualité comme étant une valeur. Conscient de cet état d'esprit, de l'état d'esprit de ses concitoyens, le président sénégalais se serait-il alors risquer à une manifestation aussi bruyante que celle qu'il a eue pour les attentats de Paris? Assurément non, pointe aujourd'hui, car les Gorgigens sont stigmatisés et même emprisonnés au pays de la Teranga, et ne parlons pas de la Gambie, où le président Yahya Jammeh promet de les pendre haut et court. Et le quotidien burkinabé de conclure, vu l'importance des États-Unis pour chaque pays d'Afrique, les dirigeants du continent se sont contentés de leur téléphone rouge pour câbler l'oncle Sam et lui exprimer tout leur soutien, en précisant que le caractère privé de cette manifestation de compassion n'enlevait en rien sa sincérité. Autre contrée, autre mœurs, lu en creux, le comportement des dirigeants africains face à l'innommable d'Orlando peut être considéré comme une réserve de bienséance pour la bien-pensance, alors que dans la réalité, même sous les tropiques, l'homosexualité gagne du terrain et est de plus en plus tolérée, du moins subrepticement. Ainsi va la vie des peuples.
Mois de juin, mois de la francophonie, mois de Toronto Pride, mois de la fierté gay 2016. Et cette année, tout le mois de juin, à l'antenne de CUT 89,5 FM. Une première pour la ville de Toronto, un mois de célébration non-stop. En cette année, pour la première fois, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, participera au grand défilé de la Pride, défilé de clôture du mois de la Pride Month, le 3 juillet prochain, à ne pas rater.
Et tout au long du mois de juin, Potpourri Show fait son cinéma à sa façon avec plusieurs partenaires de la région et vous propose une programmation spéciale aux couleurs LGBT sur le thème « Affiche tes couleurs ». Alors que la situation s'améliore souvent en Amérique, au Canada et en Europe, elle se détériore ailleurs, malheureusement. Et les animateurs, les correspondants de l'émission Potpourri vous invitent à faire un tour du monde de la question homosexuelle en 22 pays gay-friendly et 80 pays homophobes. Découvrez les avancées, les enjeux, les défis politiques, économiques, artistiques des membres LGBT ainsi que toute la programmation des associations de la région. CUT-FM est engagé à mettre en avant les personnes ou les groupes qui chaque jour font bouger les personnes LGBT à Toronto, au Canada et dans le monde en défendant ses droits, en faisant de la prévention et en rendant nos communautés un peu plus sécuritaires. Rendez-vous chaque dimanche de 11h à 13h tout au long du mois de juin sur CUT 89.5 FM pour faire la fête avec les chefs de file, les militants de la communauté LGBT. Débat critique avec une grande liberté de ton. Participez à nos jeux concours et courez la chance de gagner un repas pour deux. Tenez-vous bien au prestigieux hôtel Four Seasons dans le quartier de Yorkville à Toronto. Si vous désirez contribuer ou parrainer cette édition spéciale, veuillez communiquer immédiatement avec l'équipe de Potpourri Show, pot.pourri@sympatico.ca. Et cette 29e édition est produite en partenariat avec le département d'études françaises de l'Université de Toronto, Radio France Internationale et nos radios partenaires, l'Express de Toronto, Ciné Franco et plusieurs amis correspondants d'ici et ailleurs. Tout au long du mois de juin, soyez des nôtres. Mois de la fierté, mois de Toronto Pride sur CUT 89,5 FM Toronto.
Vous écoutez Potpourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
Les parents qui rejettent leurs enfants en raison de leur homosexualité sont des parents qui eux-mêmes se sentent agressés par ça. Et c'est ça qui est étonnant.
Personne ne se revendique homophobe maintenant. Au contraire, on commence toujours par « bien entendu, je ne le suis pas », alors qu'en fait, on l'est.
Et être rejeté par sa famille, ça peut être une souffrance, ça peut être aussi une bénédiction. Parce qu'il y a des familles qui sont vénéneuses.
Si nous avons quelque chose à dire aux parents, ça n'est pas tellement de leur dire que ce qu'ils font est mal, ce qu'ils font fait mal.
C'est tellement dur de se construire ado que être rejeté pour ces simples raisons, je trouve ça tellement violent.
Souvent, je dis à mes enfants, y compris maintenant, quand ils sont grands, je leur dis, mais si vous avez un problème, la première personne à qui vous devez en parler, c'est moi, votre maman. Parce que la seule personne dont vous pouvez être sûr qu'elle ne vous jugera pas, c'est moi, votre maman.
Depuis longtemps déjà, j'avais envie de faire ce voyage, partir à leur rencontre, comprendre ce que ressentent ces jeunes homosexuels rejetés par leurs parents, jetés dehors parfois du jour au lendemain. Entendre les parents aussi, ceux qui ont mal réagi. Moi aussi, je suis maman, deux petites filles. Et je n'imagine pas une seconde les laisser à la rue, vivre à elles-mêmes, parce qu'elles auraient une orientation sexuelle différente. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête des parents qui prennent des décisions aussi radicales ? Voilà pourquoi je suis partie en immersion au cœur de l'association Le Refuge, qui héberge des jeunes homosexuels de 18 à 25 ans, rejetés par leurs parents. Des rencontres exceptionnelles, avec ces jeunes bien sûr, qui ont parfois grandi trop vite à cause des épreuves. Avec les bénévoles du refuge aussi, toujours dévoués et tellement généreux. Avec les parents, parfois désemparés. Et avec des personnalités engagées auprès du refuge. Ils m'ont tous aidé à mieux comprendre ce qu'on ressent quand on est abandonné par ses proches, ses propres parents, si jeunes, simplement pour ce qu'on est. Ce sont leurs histoires que j'ai voulu raconter avec mon regard de maman. Une histoire forcément chargée d'une intense émotion. Les souvenirs sont là, et je n'ai rien oublié. première étape de mon voyage, Marseille. L'une des 15 villes de France où le refuge est présent. 15 antennes qui hébergent au total 70 jeunes. Ils sont parfois logés à l'hôtel quand il y a urgence, mais le plus souvent dans des appartements relais où les jeunes vivent à plusieurs en colocation. Le refuge Marseille dispose de 2 appartements. Première visite guidée dans l'un de ces logements, pas très loin du Vieux-Port.
Hello, ça va ?
Ça va.
Ça va, Sofiane ?
Ça va et toi ?
Oui, alors c'est ici votre petit chez vous ?
Ouais, là c'est moi.
C'est Sofiane qui m'accueille pour la visite. Il a 19 ans. Il est arrivé au refuge il y a 5 mois. Sofiane a vécu pas mal de galères avant d'arriver ici. Quand il n'a plus supporté les insultes et les vexations de ses parents, il s'est enfui de chez eux, sans savoir où aller. Depuis qu'il habite ici, il réapprend à vivre. Dans les appartements du refuge, les jeunes sont rarement seuls. Ici, à Marseille, ils sont accompagnés par Céline, travailleuse sociale, qui est toujours à l'écoute.
Il y a une terrasse ?
Ouais, on a une terrasse.
C'est génial ! C'est vraiment Marseille, quoi.
Ouais, Marseille.
Quand tu vois les habitations comme ça, c'est Marseille.
C'est typique. Les objectifs, quand même, de ces appartements relais, c'est d'abord de permettre aux jeunes de se reposer. Des jeunes qui ont vécu des traumatismes, des violences, des agressions, que ce soit physiques, morales, vraiment liées à l'homophobie. Et c'est tout d'abord un lieu où ils vont pouvoir se poser et puis construire un projet. C'est aussi vous montrer que vous avez des compétences, que vous pouvez aller loin, que vous avez de l'avenir. Et nous, on est là pour valoriser ça aussi, pour dire qu'il ne faut pas s'oublier. Et
toi, ça fait un moment que tu es là, donc tu en vois beaucoup des gens passer, du coup.
Ouais, j'en ai vu pas mal passer, ouais.
Et c'est pas difficile pour toi de...
Si, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une personne qui arrive, tu peux t'attacher à elle et après, 2 semaines après, elle part.
Pas facile pour Sofiane de s'inventer une nouvelle vie au refuge, après ce qu'il a enduré chez lui.
Et pourquoi t'es arrivée au refuge ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Parce que je suis partie de chez moi, en fait, du fait que mes parents n'acceptaient pas mon homosexualité. Et du jour au lendemain, je suis partie, sans leur dire.
T'as fugué ?
Voilà.
Pourquoi t'as pris cette décision, en fait ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ta vie pour que tu prennes cette décision ?
Bah, plein de petites choses, en fait. Je dirais juste les insultes. Mes parents qui m'insultent, enfin ma mère surtout, qui m'essaie de pédé à chaque fois, qui me disait « t'habilles pas comme ça, t'habilles pas comme ci, change de coiffure ». Au fur et à mesure, elle pétait un plomb du genre « je mettais des pantalons de plus en plus serrés ». Ça, elle me les déchire. À chaque fois qu'elle en trouvait un dans le placard, elle le déchirait. Et volontairement, bah, elle le repliait et elle le posait normalement sur mon étagère pour bien que je voie qu'elle a déchiré, qu'elle veut pas que je porte ça. Après, mes cheveux, quand je revenais avec une coiffure, bah, par exemple, une coiffure comme ça, elle m'obligeait à couper, c'était pas possible. Pour elle, être gay, en fait, c'est vouloir devenir une fille.
C'était un poids, quoi.
Un poids, ouais. Du genre, ils faisaient des soirées, tout le monde était invité. Moi, elle me disait non, je reste à la maison. C'est pas facile.
C'était la honte, quoi.
Ouais, j'étais plutôt à la honte de la famille, ouais.
Sofiane avait encore beaucoup à me raconter. Mais il a voulu me faire visiter le local du refuge, installé quelques rues plus loin. Ici, qu'ils soient hébergés ou simplement suivis psychologiquement, les jeunes se retrouvent 2 fois par semaine avec des bénévoles pour échanger et vivre ensemble, un peu comme à la maison. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois Thierry, le responsable de l'antenne Marseille.
Ces activités ont pour but déjà de leur apporter un peu de bonheur, un peu de joie, et ça c'est important parce qu'ils souffrent suffisamment pour qu'on puisse aussi, d'un point de vue purement ludique, leur apporter quelque chose. Mais il n'y a pas que ça. Ça permet de créer, de renforcer les liens. Il y a des choses qui vont se dire entre les jeunes et des confidences qui vont se faire entre les jeunes et l'équipe et les bénévoles. Et c'est là qu'il se crée des liens et des relations qui vont faire que le jeune va être en confiance. Et ensuite, ça nous donne, nous, du matériel pour pouvoir travailler après la réinsertion.
Ils m'appellent Maman de cœur.
Maman de cœur.
Voilà. Ça consiste à faire des câlins quand ils en ont besoin et à se fâcher quand il faut aussi.
Parce qu'ils font des bêtises.
Parce que l'appartement, il n'est pas toujours très propre.
Ah bah bravo hein.
La vaisselle n'est pas toujours faite.
Moi, j'étais, c'était propre.
Il y a des vêtements de partout. Ah bah parce qu'il y avait la télé, sinon c'est pas comme ça.
Non, c'est toujours propre.
Ah, Sofiane m'avait dit que justement, c'était propre tout le temps.
Non, c'est
Voilà, c'est le rôle de maman. Voilà.
Les bénévoles du refuge assurent une présence quotidienne pour encadrer ces jeunes et veiller au respect des règles de vie commune. Car ils sont encore tous très jeunes. La plupart ont entre 18 et 19 ans. Ils ont besoin qu'on leur fixe des limites. Le refuge a vocation à héberger ces jeunes en situation d'urgence, mais aussi à leur apporter une aide psychologique. Quand ils arrivent, ils sont souvent désespérés. Ils vont très vite rencontrer des psychologues, des travailleurs sociaux et des bénévoles pour les aider à remonter la pente, leur redonner goût à la vie.
Qui les protège si longtemps.
Mais la douceur de ces moments de réconfort ne peut effacer totalement la souffrance endurée. Chez les jeunes homosexuels, on se suicide 7 fois plus que chez les jeunes hétérosexuels. Sofiane, lui, n'en avait pas fini avec son histoire. J'allais en apprendre beaucoup plus sur ce qu'il avait vécu, sur ses souvenirs et ses regrets aussi.
Avant d'arriver au refuge, tu as vécu une période qui n'était pas évidente, qui n'était pas simple.
J'avais fugué, j'étais partie de chez moi, chez une copine qui habitait pas très loin d'Avignon. Cette période-là, vu que j'avais pas d'argent, j'avais rien du tout, j'avais que ma personne et mes vêtements, c'est tout. Il fallait que je fasse des choses pas très catholiques, fallait que je gagne ma vie comme je le pouvais. Et j'étais parti en fait dans le monde de la nuit. En fait, j'ai connu tout ce qu'elle a avec drogue, prostitution, tout. J'ai goûté à tout. C'est ça qui a gâché mes études en fait. J'allais passer en première L et j'ai arrêté. J'étais défoncé matin, midi, soir. J'étais dans de sales états. J'aurais très bien pu attraper des maladies ou je sais pas. J'aurais très bien pu attraper des choses. Ça va aujourd'hui, rien du tout. Ça va.
Est-ce que tu regrettes tes années de petit garçon dans la famille, comme ça, comme cette photo que j'ai vue où t'es en short avec ta sœur
Ouais, je les regrette, ouais. Parce que je me dis que même en étant comme ça, j'aurais pu passer des bons moments avec eux, comme ça aussi. Et ouais, ça me fait regretter, ouais.
Il faut que ça sorte, hein. Faut que tu craques un peu, hein. Tu te retiens trop. On sent que tu contrôles beaucoup de choses, alors.
Ouais.
Qu'est-ce que tu regrettes le plus, là ?
Ben, plein de choses, en fait. J'aurais pu passer des bons moments comme ça, même en étant comme ça avec eux. Mais voilà, c'est pas possible.
L'homophobie, c'est vraiment une discrimination particulière par rapport aux autres. Parce que quand on est victime, par exemple, de discrimination liée à sa couleur de peau, liée à sa race, en général, on peut aller dans les bras de ses parents, aller pleurer, se faire réconforter. Hein, quand on se fait insulter dans son lycée, voilà, on peut toujours aller pleurer dans les bras de ses parents. Quand on se fait traiter de sale pédé, ou de Salguin, et qu'en plus, on sait que si on va voir ses parents, on en prend une deuxième couche, ça isole beaucoup. Forcément, là, pour le coup, le jeune se retrouve dans une situation où il ne sait plus vers qui se tourner.
Ce jour-là, à Marseille, je fais aussi la connaissance de Jean-David. Il est arrivé au refuge il y a seulement quelques jours. Il est nerveux, le regard fatigué. Comme tous les jeunes qui arrivent ici, Jean-David a composé le numéro de la ligne d'urgence nationale du refuge, ouverte 24 heures sur 24. Comme il venait du sud de la France, il a tout de suite été orienté vers Marseille. Pour lui permettre d'échapper à des violences physiques, tout s'est réglé en quelques heures. Aujourd'hui, il ressent un irrésistible besoin de se confier, mais pas à visage découvert. Jean-David a peur des représailles de ses parents. Pourtant, il n'est plus un enfant, il a 24 ans.
Mon père est rentré dans ma chambre, et en fait, il m'a vu au lit avec un garçon, et pourtant, on faisait rien, on était juste allongés, puis... Ça a été la descente aux enfers. Mon père m'avait très bien compris qu'il fallait que je parte. Mon frère m'a tapé deux fois dessus quand même, deux fois au visage. Et j'étais une première fois aux urgences, donc j'étais faire une main courante quand même. Il m'a dit clairement qu'ils étaient tous les deux homophobes. Donc dans cette histoire, bah, j'ai perdu ma famille.
Donc t'as senti l'isolement, quoi.
Ouais. Bah, de toute façon, je m'en doutais. De toute façon, c'était soit ça passe, soit ça casse. Je comprends d'un côté, ça doit être dur d'encaisser, mais je me dis c'est pas une maladie. Pourtant certains ont pensé que j'étais mentalement malade, que j'avais des problèmes, etc. Bon, on m'a quand même fait la misère par rapport à mon homosexualité. De toute façon, ma mère, c'est simple, quand elle a su que j'étais gay, elle a fait sa pub elle-même autour de ma famille, elle a appelé tout le monde. Comme si j'avais un cancer ou comme si j'étais moi-même une maladie. On m'a dit aussi que c'était pas normal que des gens comme votre famille vous traitent de pédés, d'enculés, etc. Non, ce n'est pas normal.
Qui t'a dit que c'était pas normal ?
C'est Céline qui m'a dit que c'était pas normal.
Aujourd'hui, déjà, tu te sens comment par rapport à quand t'es arrivée ?
Ça va faire une semaine aujourd'hui.
Ouais. On est jeudi, ça fait une semaine.
Bah,
Regarde, t'as fait des choses que tu te pensais même pas capable de faire à la base. Venir en sortie avec nous.
Ouais, je sais.
Témoigner aujourd'hui.
Oui. C'est quelque chose. Si je le fais, c'est parce que je sais qu'il y a d'autres gens qui sont comme moi. Les insultes, les moqueries, tout ça.
Toi, tu l'as vécu pendant des années.
Bah oui, je sais.
Maintenant, ça suffit.
Oui, oui, bah maintenant. Oui.
Céline, c'est important ce genre de discussion que vous avez ensemble.
Oui,
je pense que
évidemment, c'est la seule personne avec qui je peux parler de ça. Je peux pas parler de ça avec d'autres gens, c'est pas possible.
C'est des discussions qui sont très difficiles parce que il y a beaucoup d'émotions, même pour moi. Hein. Enfin, honnêtement, je suis travailleuse sociale, je suis éducatrice, je fais ce qu'on veut. C'est en entendant, c'est très violent ce qu'il raconte, ce qu'il nous renvoie. Et je sais que le chemin est long, ça prend du temps de pouvoir se reconstruire, de passer au-dessus de tout ça. Et juste d'être à l'écoute, d'être là,
ouais,
c'est important parce que des fois, même moi, j'ai pas toujours les réponses. J'ai pas toujours les réponses, tu le sais, j'essaie juste d'être à l'écoute. Et c'est ce que j'essaye de faire vraiment depuis le début, depuis qu'on se connaît. À côté de ça, voilà, il y a aussi un travail avec une psychologue aussi où il va pouvoir extérioriser certaines choses qu'il peut peut-être pas faire avec moi, ou elle pourra peut-être avoir des réponses que moi j'aurais pas. Il faut simplement que tu arrives à dépasser toute cette honte, toute cette culpabilité qui te ronge depuis des années et qu'on t'a laissé croire.
Après quelques mois passés au refuge, ces jeunes réussissent tout de même à se reconstruire, à penser les blessures du passé et à trouver une forme d'autonomie. Qu'ils s'appellent Michel, Hamza ou Sofiane, ils semblent tous avoir retrouvé ici leur joie de vivre.
Vous nous faites un cauchemar en cuisine. C'est toi qui as fait ça?
On va être une pâtisserie ou un traiteur, quoi. Tu
veux
goûter?
Oui.
Régime, il est foutu avec toi. T'as fait les croissants et tout?
Ouais.
Tu pourras me montrer comment tu fais. Oh, avec de la viande hachée.
Bon.
Pourquoi vous rigolez, vous? Toi, t'as rien fait, Sofiane.
J'ai coupé de la mozzarella quand même.
Oh, bizarre! Ah ouais!
Tu me diras si elle est bonne, la mozza, c'est moi qui l'ai faite.
Tu l'as coupé quoi?
Elle est déjà préparée.
Ah, c'est trop bon! Hamza, t'es prêt à marier? T'es bon à marier?
Oui.
Il est bon à marier, Hamza.
Tu peux donner ton numéro de téléphone.
Vite. Faut aller faire les manger.
Quand ils sont virés de leur famille, ils n'ont jamais fait une machine à laver de leur vie, ils n'ont jamais fait une lessive de leur vie, ils n'ont jamais fait cuire des pâtes, ça va rien. Et ces jeunes-là se retrouvent vraiment avec un niveau d'autonomie très très faible et à la rue. Et avec en plus, ils doivent se déshabituer à un rythme de vie qu'ils avaient et qui ne sera plus.
Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à l'attention des habitants, arrivé à 8h.
Elle arrive à 8h ce matin.
À 8h, vas-y donc. Salle de bain en désordre. La cuisine, vaisselle, frigo, sol, table, plan de travail sont sales.
C'est menteuse.
Alex et Sofiane, votre chambre est en grand désordre. Pour rappel, je ne suis pas la femme de ménage et il y a des règles à respecter. Les bénévoles viennent souvent comme ça à l'improviste le matin?
Tous les jours.
Tous les jours?
Tous les jours à 9h. Il y a une dame qui passe pour vérifier l'état des lieux. Et sinon, le vendredi, elle passe en surprise. Et après, le soir, ils passent à 23h. Ils ne nous disent pas quand est-ce qu'ils vont passer, mais ils passent pour savoir si on est là. Deux, trois fois, j'étais pas là à 23h. Mais j'avais une bonne raison à chaque fois.
C'était quoi le travail?
Bon. J'étais sur la route. Les transports en commun, ils ont du retard à chaque fois. J'ai pas de chance.
Oh, dit-il avec ces deux fossettes là. Tu crois que ça marche? Même elles ne sont plus dupes. Céline, elle m'a dit qu'elle est plus dupe.
Non, c'est les transports en commun.
Sofiane, il n'y avait pas un deal, normalement?
Si, quoi?
Le deal, normalement, c'était je viens pas faire les courses, mais je vous aide à faire
les courses. J'ai coupé la mozza depuis tout à l'heure.
Depuis tout à l'heure, t'as coupé une boule de mozza.
Wow. J'arrive, je te jure, après j'arrive.
Trop dur, franchement.
Laisse-moi la deuxième.
Il est né prince en fait, il doit finir. À mon avis, dans une autre ville, il était prince ou roi, fakir, je sais pas, un truc comme ça.
Votre Altesse Sofiane, s'il vous plaît.
Mais finalement, Sofiane ne retourne pas en cuisine. Il a mijoté un autre plan en secret.
Oh, c'est gentil. Oh là là.
Alors, composition de Michel.
Ah, c'est Michel.
Oui.
C'est lui qui l'a. On a acheté les fleurs comme ça séparément.
Et c'est magnifique.
On est allé ensemble.
Avec le petit logo du refuge là.
Mon mec, il va croire que j'ai un amant. Hein. Je pars à Marseille, je reviens avec des fleurs. Il va me dire écoute. Je dirais oui, c'est Michel. Non, mais Michel, merci beaucoup. Hein. C'est vraiment adorable.
Je pleurerai pas.
Après 2 jours à Marseille, leurs histoires difficiles et ce geste plein d'attention m'ont sincèrement bouleversée.
Merci beaucoup. J'ai été très touchée par vos histoires et puis j'ai été très touchée aussi par votre courage à tous. Ouais. C'est une belle leçon de vie en fait. Voilà. Bon, merci. C'est pas à moi de pleurer.
Je sais aussi que je vais devoir les quitter bientôt, que la fin de mon séjour à Marseille approche. Pas envie de les quitter après tout ce que j'ai vécu avec eux. Un peu triste, je pars pour d'autres rencontres, accompagnée par une magnifique délégation.
Merci beaucoup. Salut Guillaume. Merci beaucoup.
Fais attention à toi.
Ouais, merci beaucoup. Très vite. Je reviendrai au refuge du Marseille.
Pas de...
Vous avez mis la barre trop haut là, à Montpellier, ils vont avoir un coup de pression de ma part. Salut les amis.
Ouais, j'espère que c'est vraiment...
Oui, au revoir.
Au revoir.
Le refuge a su trouver des soutiens qui parlent de lui régulièrement et médiatisent son action. Le cercle des amis du refuge se réunit plusieurs fois par an à Paris. Ce jour-là, Marc-Olivier Fogiel et Ariel Dombal venaient pour la première fois. Roselyne Bachelot est venue en habituée. C'est Françoise Laborde, très investie, très impliquée, qui organise ces déjeuners de sensibilisation.
On n'imagine pas, tant qu'on n'est pas allé au refuge, qu'en 2014, dans des familles, entre guillemets, sans histoire, il peut y avoir des enfants qui sont rejetés uniquement sur des critères d'orientation sexuelle. C'est invraisemblable de penser ça. Et souvent, on se rend compte qu'il y en a qui passent le bac. C'est-à-dire qu'ils sont en terminale. Et ils continuent à passer le bac, ils continuent à aller au lycée tous les jours tout en étant à la rue. Et ce qu'il faut leur éviter, c'est la drogue et la prostitution. Parce qu'il faut parler de choses concrètes quand même. Hein.
Quelqu'un que je connais bien, milieu très très favorisé.
Oui.
Ses parents me disent... Oui, ben notre fils est homosexuel.
Doucement, comme ça.
Doucement. Et d'ajouter, mais tu sais, c'est un enfant adopté, ça ne vient pas de nous.
Quelle horreur.
Alors, ça, c'est terrible.
Mais quelle horreur. J'avais le sentiment que c'était peut-être dans des familles qui étaient dans une grande pauvreté affective, intellectuelle, où on ne se parlait pas du tout, ou bien il y avait des conditionnements religieux très forts qui faisaient qu'il y avait un niveau d'intolérance terrible. Et quand on parle autour de soi, et quand on parle avec ces jeunes du refuge, on voit qu'ils viennent de tous les milieux sociaux, qu'ils viennent de toutes les catégories, de tous les horizons. Et c'est ça qui fait un peu peur, c'est qu'on se dit qu'on est à un niveau d'intolérance qui, au fond, n'a pas du tout bougé, et c'est sans doute encore aggravé, mais c'est ça qui est le plus troublant. C'est que ça existe partout, y compris chez ses voisins, y compris chez ses meilleurs amis. Au détour d'une conversation, on entend « Oui, tu sais, en fait, voilà, sa fille est homosexuelle, ou son fils est homosexuel, du coup, il ne veut plus le voir ou la voir. » Alors, quand c'est dans les milieux bourgeois, en gros, on s'arrange pour qu'ils partent aux États-Unis ou ailleurs ou chez la tante ou je sais pas quoi. On voit la campagne, personne n'en parle. Et on mais c'est la même chose. Enfin, c'est tu es homosexuel, je ne veux pas te voir. Ça, c'est hallucinant, quoi.
Et on peut avoir du mal à appréhender les choses, de la rejeter dans la violence. Non, ça, je comprends pas, je ne tolère pas. Je trouve que c'est un manque d'intelligence, de générosité, mais je comprends la difficulté à avoir géré une situation qui n'est pas une situation banale.
Anna Guion fait partie de ses parents qui ont violemment rejeté leur enfant parce qu'il était homosexuel. C'était il y a 10 ans. Un jour, son fils Alexandre, 17 ans, a invité Vincent, son petit copain de l'époque, à venir déjeuner chez elle. Un coming out qu'Anna a très mal pris.
J'ai capté dans le regard d'Alexandre
qu'il était dans la séduction de Vincent. Ils étaient tous les deux, il y avait des échanges qui ne pouvaient pas m'échapper, qui ne pouvaient plus m'échapper. Et là, j'ai compris qu'en fait, Alexandre et Vincent étaient dans une relation d'amour, voilà, d'échange amoureux et de totale séduction. J'ai décidé en fait de montrer à Alexandre que son attitude et la présence de ce garçon me déplaisaient fortement. Je me suis complètement renfermée sur moi-même, avec des yeux noirs de colère. J'étais désagréable au possible. Si nous avions vécu en ville, je me demande si je n'aurais pas mis Alexandre et Vincent dehors.
Et aujourd'hui, Anna a changé d'avis. Elle a raconté son histoire dans un livre, Moi homophobe, où elle explique avec courage pourquoi elle a très mal vécu la révélation de son fils à l'époque.
Dans la souffrance, un homosexuel, pour moi, ça ne pouvait pas être un homme. Voilà, à cette époque-là, c'était ça. Et donc, il y avait quelque chose qui se brisait d'un seul coup de l'image que j'avais de mon fils. Tout s'effondrait et du coup, fatalement, j'en étais responsable. J'avais loupé quelque chose et là, il y avait un grand sentiment de culpabilité. Pour moi, en tant que maman, j'allais forcément être jugée, mal jugée.
Un peu ébranlée par ces réactions de parents que je trouve tellement insensées, j'ai choisi de passer quelques jours à Montpellier, où le refuge a été créé il y a 12 ans déjà. J'arrive avec l'envie de mieux comprendre encore ce qui se passe dans la tête des jeunes rejetés par leurs parents. Avant de se réfugier au refuge, beaucoup ont connu la rue. Rares sont ceux qui ont frappé directement à la porte de l'association. Ce passé chaotique les conduit parfois à dépasser les bornes. C'est le cas d'Henrik, 19 ans, au refuge depuis 5 mois. Frédéric Gall, le directeur général, l'a convoqué de bon matin pour un entretien sans complaisance.
Bon, alors, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à dire ?
On parle grand-chose, je me suis amusé.
Et pour la Gay Pride alors ?
Ben quoi ? Je me suis amusé, j'ai rien fait de mal. J'ai un peu trop bu, d'accord.
Ah ben un peu trop bu, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire.
Mais c'était la fête.
Ah ben, tu sais, il y a toujours la occasion de faire la fête, hein. Fin du mois, c'est ma fête aussi, donc tu peux... Fin de la semaine, c'est ma fête, tu peux aussi boire aussi.
Mais non.
L'anniversaire, c'est dans un mois, tu peux aussi boire aussi.
C'est moins important.
Après, c'est pour vous, surtout, c'est pas tant pour moi, hein. On s'en fout de moi. L'important, c'est que c'est vous qui fassiez attention à ce que vous faites. Là, pour le coup, je vous dis sérieusement.
Oui.
Ouais. C'est pas la première fois qu'on te fait la remarque, c'est pas la première fois que c'est un problème, quand même. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ? Parce qu'à part dire oui...
Mais quoi, qu'est-ce que je compte faire ? Je sais pas, je bois pas tous les jours, c'est parce que c'était la Gay Pride, et puis là, après, on a été au resto, mais ouais, ça se reproduira pas.
Pourquoi il y a autant de règles en fait ? Parce que finalement, vous pourriez très bien vous suffire à les héberger, et puis. Mais c'est vrai que ça serait un peu trop facile.
Effectivement, quand on leur demande de rentrer à 23h aux appartements relais, c'est peut-être très embêtant, mais n'empêche que pour certains qui n'ont pas la capacité de s'imposer des limites, ben on leur en impose. On a des jeunes qui sont arrivés chez nous qui connaissaient que la prostitution, qui connaissaient que la drogue, que l'alcool, que les comportements très violents, que les réactions très épidermiques face aux jeunes, enfin aux autres personnes qu'ils connaissaient, et qui vivaient très bien dans ce cadre-là. Puis ils sont aperçus que ce cadre-là qu'ils avaient, eh bien, ne s'insérait pas forcément dans le cadre de la société en règle générale du vivre ensemble.
Pour leur réapprendre le vivre ensemble, justement, le refuge organise des soirées buffets dans les appartements. Tout le monde met la main à la pâte. Ce soir-là, j'en ai profité pour en savoir un peu plus sur Henrik, le rebelle, le frondeur au sourire ravageur.
Quand moi je me suis découvert, j'avais 14 ans environ, et au bout de 3 ans et demi, 4 ans, j'en avais un peu marre de me cacher, quoi. J'avais envie de faire ma vie. Donc du coup, quand j'ai eu mes 18 ans, on a fait un repas de famille, et je me suis senti prêt ce jour-là, annoncer devant toute ma famille que j'étais homosexuel. Et mon père s'est levé en me demandant si c'était une blague. Je lui ai répondu que non. Et il s'est approché de moi et il a commencé à être violent envers moi, à m'insulter.
Je peux comprendre le mécanisme qui amène des parents à ne pas, dans un premier temps, sauter de joie et danser un certain qui sur la table. Je veux bien imaginer que ce soit compliqué pour eux et qu'il y ait dans un premier temps une notion de « je ne veux pas en parler, je me mets à distance ». Par contre, ce que j'aurais beaucoup plus de mal à comprendre, c'est cet acharnement que pourront avoir certains parents à tout prix ne pas vouloir parler, ne pas vouloir vraiment rejeter physiquement, violemment, en agressant leur enfant.
Et le lendemain, mon père et mes frères m'attendaient devant la porte avec mes affaires. Et là, de nouveau, c'était reparti. Je me suis fait cracher dessus, je me suis fait insulter. Et moi, j'ai décidé de partir. J'ai pas pris mes affaires et je suis parti comme ça à l'aventure.
On a des parents qui ont envoyé des textos qui étaient abominables à des enfants. Dire à son fils que s'il avait su qu'il était pédé, il aurait avorté. Et que ce jeune reçoit ce texto-là, en plus c'était minuit et demi, donc il était déjà pas bien et il reçoit ça. C'est déjà quelque chose de dramatique. Et là, par contre, c'est le seul moment où ma compréhension des parents s'arrête. Parce que je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse, en tant que parent, faire ça à son fils ou sa fille.
On ne fait pas des enfants pour qu'ils soient comme on a envie. On fait des enfants pour qu'ils fassent leur vie, qu'ils soient heureux comme ils sont. Et être homosexuel, on n'est pas pédophile, on n'est pas meurtrier. J'ai tué personne, j'ai fait de mal à personne. J'ai juste une orientation sexuelle différente des autres. Et alors, je fais quoi de mal? Pour moi, je fais rien de mal, à part que voilà, j'aime des hommes et non pas des femmes.
Pour mieux comprendre pourquoi le père d'Henrik refuse toujours de renouer le contact, j'ai demandé à Anna Guion de m'expliquer, elle qui a vécu ce sentiment de rejet envers son fils.
Ses parents qui continuent à s'obstiner, à vouloir absolument rejeter et garder la distance avec leur enfant homosexuel, c'est qu'au fond, ils ne peuvent pas se débarrasser de tout ce qu'ils avaient construit, imaginé, projeté pour leur enfant. Et tant qu'ils n'auront pas fait ce travail-là, ils ne pourront pas. C'est un peu comme une porte que l'on ferme pour en ouvrir une autre et qui permet d'accepter d'autres modalités, d'autres caractéristiques qui font que, oui, enfin, il peut se tisser un nouveau lien et de là, arriver à l'acceptation et projeter, avoir des projets d'avenir.
Vous écoutez Potpourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
Mois de juin, mois de la francophonie, mois de Toronto Pride, mois de la fierté gay 2016. Et cette année, tout le mois de juin, à l'antenne de CUT 89,5 FM. Une première pour la ville de Toronto, un mois de célébration non-stop. En cette année, pour la première fois, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, participera au grand défilé de la Pride, défilé de clôture du mois de la Pride Month, le 3 juillet prochain, à ne pas rater. Et tout au long du mois de juin, Potpourri Show fait son cinéma à sa façon avec plusieurs partenaires de la région et vous propose une programmation spéciale aux couleurs LGBT sur le thème « Affiche tes couleurs ». Alors que la situation s'améliore souvent en Amérique, au Canada et en Europe, elle se détériore ailleurs, malheureusement. Et les animateurs, les correspondants de l'émission Potpourri vous invitent à faire un tour du monde de la question homosexuelle en 22 pays gay-friendly et 80 pays homophobes. Découvrez les avancées, les enjeux, les défis politiques, économiques, artistiques des membres LGBT ainsi que toute la programmation des associations de la région. CUT-FM est engagé à mettre en avant les personnes ou les groupes qui chaque jour font bouger les personnes LGBT à Toronto, au Canada et dans le monde en défendant ses droits, en faisant de la prévention et en rendant nos communautés un peu plus sécuritaires. Rendez-vous chaque dimanche de 11h à 13h tout au long du mois de juin sur CUT 89,5 FM pour faire la fête avec les chefs de file, les militants de la communauté LGBT. Débat critique avec une grande liberté de ton. Participez à nos jeux concours et courez la chance de gagner un repas pour deux. Tenez-vous bien au prestigieux hôtel Four Seasons dans le quartier de Yorkville à Toronto. Si vous désirez contribuer ou parrainer cette édition spéciale, veuillez communiquer immédiatement avec l'équipe de Potpourri Show, pot.pourri@sympatico.ca. Et cette 29e édition est produite en partenariat avec le département d'études françaises de l'Université de Toronto, Radio France Internationale et nos radios partenaires, l'Express de Toronto, Ciné Franco et plusieurs amis correspondants d'ici et ailleurs. Tout au long du mois de juin, soyez des nôtres. Mois de la fierté, moi de Toronto Pride sur CUT 89,5 FM Toronto.
Chers amis lectrices, lecteurs, bonjour. Soyez les bienvenus ici, à quelques pas des Alpes françaises, à Grenoble. Grenoble, ville bordée par les airs, qui aujourd'hui accueille la troisième édition consécutive de sa Gay Pride. Une Gay Pride qui est organisée par l'association nommée LGBTQI de Grenoble. Association qui a des racines ici, dans le milieu associatif et le tissu de la communauté homosexuelle grenobloise depuis 21 ans. Le beau temps est au rendez-vous, cela signifie que cette Gay Pride va enregistrer probablement un autre record de fréquentation l'an dernier. D'après les organisateurs, il était établi à 1400 personnes et il y a fort à parier qu'aujourd'hui, nous allons allègrement le dépasser. Je vous remercie donc une fois de plus pour la fidélité et bien sûr le suivi régulier et constant sur rosagrader.com et les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager cet article, ce sujet ainsi que la vidéo sur le réseau social qui vous fait plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour un autre sujet Gay Pride, un petit peu plus sonore, mais on aura du soleil j'espère à Lille. Gros bisous, je vous aime.
6, 5, 4, 3, 2, 1.
Happy Gay Pride 2014.